Caroline Lebovici.
Bonjour.
Bonjour. Vanessa Dian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon interview pour le Girls Support Girls.
Merci de l'invitation aussi.
On est ravis d'être là.
Donc là déjà, ça commence très fort, ne serait-ce que par le nom que vous avez créé. Avant de parler justement de cette organisation, ou de ce que vous avez créé.
C'est un label.
Ce label, moi j'avais envie, très envie même, de revenir sur vos parcours. Toute la richesse de ce que vous apportez à ce label, ce que vous coordonnez, la façon dont vous rassemblez, ça vient aussi de qui vous êtes et de vos parcours et de vos personnalités. Donc Caroline, on va commencer par vous. Alors vous, Caroline, après vos études de droit, vous vous êtes installée aux États-Unis, aux US, à LA, c'est ça ?
À LA, exactement.
Voilà, et c'est là que vous avez travaillé dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel et que vous êtes devenue publiciste.
En fait, j'étais partie à Los Angeles, en tout cas aux États-Unis au départ, pour faire une équivalence avec mes études. Je voulais être criminologue. Donc rien à voir, en tout cas a priori. Et puis c'est vrai, quand je suis arrivée sur place et qu'on m'a expliqué un peu plus concrètement ce métier, souvent on projette ce que peut être un métier, mais pas forcément la vie qui va avec, en tout cas la vie privée. Et c'est vrai que j'avais pas du tout envisagé le côté assez sombre, le fait de pas pouvoir échanger chez soi non plus, et pour des raisons de confidentialité évidemment, mais aussi pour parce que c'est quand même le pire de l'âme humaine qu'on côtoie. Et je me suis dit, mais en fait ma vie, ça peut pas, enfin j'ai pas du tout envie que ma vie soit ça. Donc j'ai préféré pouvoir trouver qui est l'assassin en regardant les films ou en dévorant des documentaires. Et puis mes amis là-bas, tous travaillaient plus ou moins ou dans le cinéma ou la musique, et j'ai commencé à faire des stages, voilà, dans ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'au départ, mon installation aux États-Unis n'avait rien à voir avec le fait de travailler dans cet univers.
Et lorsque vous rentrez en France, au bout de 4 années, en fait, vous intégrez l'agence OFF.
Je cherchais effectivement du travail. Il y avait différents festivals de films, dont une organisation de festivals de films qui s'appelait OFF, qui faisait le Festival du film de Paris, la première édition du Festival du film de Marrakech, et un festival également de science-fiction à Nantes. Et j'ai commencé effectivement à m'occuper et du protocole et des invités. C'est comme ça que j'ai démarré en France, dans le cinéma.
Et c'est aussi comme ça que vous avez rencontré Anne Pourbet.
On a monté l'agence ensemble. Effectivement, on travaillait sur les mêmes événements, les mêmes festivals. Et moi, j'ai échangé avec elle. Je lui ai raconté mon envie de monter une structure et aussi de développer le métier de publiciste en France, qui n'existait pas. En tout cas, nous, on a monté l'agence en 2004. Donc, c'est un métier qui était vraiment, à ce moment-là, beaucoup plus anglo-saxon. Elle aussi avait envie de monter son bureau. On avait à peu près les mêmes envies. Et donc, ça s'est fait extrêmement vite. Et on a lancé l'agence. Voilà, on est resté associés une quinzaine d'années. Après, on a pris des chemins différents. Mais c'était une très, très, très belle aventure.
Et c'est là aussi que vous avez développé votre carnet d'adresses et tout le relationnel, donc de talent, comédien, actrice, que vous accompagnez aujourd'hui.
J'ai toujours cru, et je pense que c'est aussi pour ça, Girls Support Girls, après avec Vanessa, qu'on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Mais j'ai toujours cru à la force du réseau, que j'ai pas, enfin, après le métier que je fais aussi c'est pas anodin, c'est quand même l'envie de partager. Alors moi, mes interlocuteurs, ça va être les médias, mais j'adore le travail de quelqu'un. J'ai découvert un artiste dans un film ou un album, et j'ai absolument envie que les gens soient au courant et partagent avec moi ces moments. Donc il y a l'envie de faire connaître. Mm-hmm. Déjà, qui était quand même quelque chose de très présent en moi, et de plus en plus dans mon métier, où effectivement les gens que j'ai rencontrés à travers les différents festivals, les différents agents aussi, enfin tout ce réseau que j'ai pu construire pendant des années, nous a permis avec Anne à l'époque, en tout cas, de pouvoir assez vite lancer notre agence.
Alors Vanessa, vous avez travaillé, vous, en tant qu'assistante de réalisation.
Oui, tout à fait.
Auprès de plusieurs réalisateurs et producteurs.
Oui, absolument. Surtout auprès de réalisateurs. On peut dire que j'ai un peu fait toute la gamme, en passant de Canal, Car Zero, au clip, au téléfilm, Cordier jugé flic, Chris. Puis les 36 Quai des Orfèvres avec Olivier Marchal. Et des films américains, Nolan, Eastwood quand il venait en France, Gossip Girl, pour la toute fin de ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de Roselyne Bosch et Alain Goldman. Parce que Roselyne, j'ai été son assistante, c'était la femme d'Alain Goldman. Et elle m'a présenté Alain pour faire de la production.
Et vous avez intégré Légende ?
Légende, ouais.
Ok.
Il y a presque 10 ans maintenant, ça passe vite.
Et donc vous, vous étiez assistante de réalisateur. Comment, à un moment donné, vous êtes passée réalisatrice ?
Productrice, vous voulez dire ?
Productrice.
Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. Moi, à la base, je fais de l'assistanat de réalisation en vue de devenir réalisatrice.
Ok.
Quand je rencontre Alain, je me rappelle très bien, dans son grand bureau, on a un rendez-vous ensemble. Il me dit « Vanessa, c'est quoi votre rêve ?» Et je dis « Bah moi, c'est de devenir réalisateur. » Il me dit « Mais vous avez quel âge ?» J'ai l'âge que j'ai à ce moment-là, une trentaine d'années passées. Et il me dit « Bah franchement, si vous aviez voulu le faire, vous l'auriez déjà fait. » Et ce premier entretien aboutit à « Il me prend pas pour des raisons diverses et variées, parce que j'ai un profil assez atypique, d'intermittente du spectacle, je fais pas partie d'une société, j'ai jamais fait partie d'une société, donc je peux faire un peu peur. » Et du coup, je me dis « Bon, bah dans la vie, il se passe des choses. » Et là, la rencontre avec Alain, c'est qu'il faut que je réalise mon court-métrage. Et j'ai réalisé un court-métrage. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour être réalisatrice. J'ai adoré diriger les acteurs, mais après faire des choix tout le temps artistiques et répondre aux 50 personnes et savoir exactement ce qu'on veut, une vision claire, etc., je l'avais pas en fait. Le cours est super sympa. Je suis pas si Orson Welles. Et moi, je mets la réalisation et le talent à un niveau où je pense que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de tout, et il faut que ça soit à un certain niveau. Et je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi, je préfère continuer à être assistante, et en même temps, j'en avais fait quand même le tour, parce que j'ai fait des gros films, j'avais envie de ça, et ils sont pas tous les 4 matins, et encore moins en France, et encore moins pour des femmes assistantes. Là où c'est pas un sujet aux États-Unis, enfin les Américains quand ils viennent ils vous testent une heure, en France il y a un vrai sujet, enfin à l'époque, il y a 10 ans, il y avait un vrai sujet sur les gros films, faut avoir des mecs un peu costauds qui savent parler à des machinaux, et toi t'es une femme, comment tu vas faire? Comment tu vas gérer une équipe de 150 personnes? Et tu fais, bah c'est marrant parce que je viens de gérer une équipe de 300 personnes, il n'y a pas eu de sujet, donc je ne sais pas pourquoi je dois avoir cette conversation. Et j'avais pas envie de faire des tout petits films, ça m'excitait pas. Dans le, moi ce qui me plaisait c'était l'organisation vraiment mouse de choses très ambitieuse, très forte. Et tout d'un coup, c'était 2 personnes, 2 acteurs. Je le respecte, hein. Moi, c'est pas ça qui m'excitait d'être avec un metteur en scène qui va faire une scène pendant une journée entière entre 2 personnes dans une table de cuisine. C'est pas mon truc. Donc, j'en avais fait un peu le tour. Et je vais la faire courte. Bref, et j'ai une opportunité pour m'occuper des égéries chez L'Oréal. Donc, je gère les 10 nanas les plus difficiles de la planète pour faire la montée des marches à Cannes, les suivre toute la soirée, etc. pendant 10 jours. Et j'adore, donc je me dis, bah, faut que je devienne attachée de presse. Je m'entends hyper bien avec les agents, que ce soit Grégory Veil, Laurent Grégoire, Alexandra Chamis, enfin, tous, je les adore, on discute ensemble, on devient potes et tout ça. Je me dis, bon, moi, je suis pas du tout faite pour être assistante réelle, moi, je veux travailler avec ces gens-là, je veux être avec eux et tout ça. Attachée de presse. Donc, je revois Alain Goldman et je lui dis, bon, moi, je veux devenir attachée de presse, est-ce que vous pouvez m'aider, me pousser là-dedans, etc. Il me dit, bon, alors, Vanessa, non. Venez, on essaye pendant 3 mois, on voit ce que ça donne. Et rapidement, il y a eu la French avec Cédric Jiménez, Jean Dujardin qui dit oui après les Oscars, Gilles Lelouch, premier film. Bon, c'était assez cool.
Mais oui, voilà. Forcément. Et il y en a eu d'autres.
Et il y en a eu d'autres après. Ouais. Avec Alain, on a fait des choses. C'est quelqu'un qui peut, quand il a des convictions, trouver beaucoup d'argent, enfin savoir aller chercher des partenaires et les faire monter assez haut pour que les ambitions soient portées, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et du coup, on a pu faire la folle histoire de Max et Léon, qui était le premier film du Palmachot, qui était quand même un film ambitieux pour un premier film. Mais bon, Alain avait fait Fatal, avait fait Casse Départ, donc il avait quand même un track record qui faisait que c'était légitime de porter ce film-là. Et c'était un gros succès d'ailleurs. On a fait et puis après j'ai eu envie de prendre mon envol et de produire toute seule aussi. Enfin, toute seule. En copro sur certains projets. Il y a eu Edmond, que vraiment on a porté depuis le début. Ça devait être un film au départ. Et puis, c'est devenu une pièce de théâtre, parce qu'Alexis est devenu tellement incontournable au théâtre qu'il est revenu de Londres en ayant vu Shakespeare in Love, en disant si on faisait Edmond au théâtre, on était tous là. Mais oui, mais bien sûr. Et donc, c'est devenu une pièce de théâtre qui est devenue un gros succès, dont Légende est coproducteur. Et après, un film au cinéma dont je suis coproductrice, parce que ça a été le moment d'Edmond où tout d'un coup je me suis dit bah c'est le bon moment pour prendre mon indépendance en devenant copro de Edmond et de Nevada, le film de l'Or de Clermont-Tonnerre aussi que j'avais accompagné à Sundance et que j'avais fait émerger. Et puis après, il y a eu Adieu Monsieur Hoffman. Ça, je l'ai fait avec Philippe Rousselet parce que ça y est, j'avais ma boîte et j'avais besoin encore d'un grand frère pour m'accompagner et m'aider à monter des projets ambitieux. Fred Cavaillé, c'est quand même un réalisateur de renom qui est habitué aussi à un certain standard de production que moi seule j'aurais jamais pu avoir. Ça aurait été un autre film, hein, peut-être, mais pour faire le film qu'on a aujourd'hui à l'image, j'avais besoin d'avoir un partenaire très fort et ça me permettait de montrer aussi au marché que j'étais pas que sous la coupe d'Alain Goldman, qui est génial, hein, mais il fallait montrer que c'était possible ailleurs. Donc avec Philippe, et puis après, du coup, ça a fait en sorte que je puisse faire mes films toute seule.
Ouais. D'accord. Et vous avez pris votre envol autonome, indépendante.
Alors indépendante, oui et non, parce que là, je viens de me faire racheter pour partie par un groupe.
Oui.
Voilà. Donc j'ai été indépendante pendant 4 ans avec le Covid, un bébé. Donc je suis très contente d'avoir trouvé des associés via Newen qui m'aident au jour le jour, qui sont des vrais partenaires et qui me permettent de pouvoir avancer et continuer dans ma carrière, et je trouve ça formidable. Donc il y en a qui peuvent être complètement indépendants, moi je crois que je suis indépendante mais quand même avec une certaine sécurité.
Très bien.
Mais pas complètement. C'est comme dans mon mariage.
Alors, moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous connaissez très bien le monde, que ce soit les comédiens, les actrices, les talents ou la production, la réalisation, que vous connaissez par cœur, puisque ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes dans ce domaine-là. Donc, vous savez, lorsque vous réunissez les femmes, et on va en parler justement de Girls Support Girls, et qui sont les femmes que vous réunissez lors des dîners trimestriels, vous connaissez très bien quel est leur monde, quels sont leurs champs d'action, enfin, quelles sont leurs difficultés, les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, justement, par rapport à Girls Support Girls, j'ai lu que vous organisiez des dîners trimestriels regroupant des femmes de l'industrie de l'audiovisuel pour créer des synergies communes, afin que les femmes soient mieux représentées au cinéma et dans les séries et en production.
On peut peut-être partir effectivement sur la genèse, où l'idée c'était vraiment de réunir des femmes effectivement de l'industrie et de pouvoir échanger. Encore une fois, avec Vanessa, on se connaissait, mais pas très bien. Et c'est comme tout milieu, je pense que parfois les gens se croisent, se voient, mais n'ont pas forcément le temps d'apprendre à se connaître. Et on s'est rencontrés sur un film, on a beaucoup échangé et on s'est rendu compte qu'on avait la même envie toutes les deux de réunir ces femmes. Vanessa le faisait déjà chez elle.
Et Caro a dit, on va le faire vraiment.
Elle le faisait chez elle sur sa péniche.
Voilà,
exactement. Et puis je me suis dit, bon bah voilà, si on le fait ensemble, essayons de le faire de manière un petit peu plus formelle.
Elle m'a dit, ça suffit, t'arrêtes de faire la cuisine et de recevoir tout le monde, en fait.
C'est pas faux, c'est ce que j'ai dit aussi. Et c'est vrai qu'on a commencé il y a 4 ans. À ce moment-là, on avait le groupe Barrière comme partenaire qui nous permettait de faire nos dîners à Paris et dans le cadre du Festival de Cannes. Et on a vu assez vite à quel point des moments comme ça où, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais il n'y a pas forcément un enjeu immédiat. Vous n'êtes pas dans la phase où vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un, ni demandeur, ni demandé. Vous n'êtes pas dans le cadre d'un festival où vous êtes déjà là pour défendre quelque chose, ni sur un tournage, ni en promotion. C'est une espèce de petit moment suspendu où l'enjeu, il est ailleurs, en fait. C'est déjà de rencontrer des gens, de rencontrer des femmes, d'échanger. Et après, il s'avère que des choses débouchent de ces moments-là. Mais voilà, il n'y avait pas une espèce d'ultimatum où, qui met la pression, forcément. Vous n'êtes pas sur votre terrain, vous allez voir quelqu'un dans son bureau, ou vous êtes dans un cadre un petit peu stressant. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'était une autre proposition. D'avoir des moments de rencontre. C'est comme ça, je pense que ça a démarré et que ça évolue vers d'autres choses maintenant.
Ouais, clairement. En fait, c'est un moment de lâcher prise et de force du désir, en fait, où les invités sont d'univers très, très différents. Parce que c'est très cloisonné, hein, la France et le cinéma français ou l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses sur Arte, un peu classe. Dans le cinéma, il y a le cinéma art RCA, il y a la comédie, et ces univers ne s'entrechoquent pas. Bah nous, on aime bien les entrechoquer, en fait. Et d'accord. Il se passe des choses chouettes, en fait, de faire rencontrer des choses, des gens qui sont pas censés se rencontrer. Et je pense que ce qu'on est, nous, c'est ça. C'est-à-dire que on rentre dans aucune case, on fait partie d'aucun clan, et c'est très bien. Hein. Moi, je trouve que c'est super, les gens qui sont dans des familles et tout ça. Mais notre façon de voir les choses à nous, c'est plus de se dire, c'est plus enrichissant de mélanger tout ça. Et que ça donne des choses différentes, en fait.
Parce que c'est un peu ça, le dîner en ville, finalement. C'est pas de faire rencontrer des gens qui potentiellement se connaissent déjà. Ils ont pas besoin de nous, on va dire. Les festivals, souvent, c'est des thématiques. La comédie, festival de films de genre, Cannes, festival international, mais ça reste un certain type de films quand même qui sont sélectionnés. Et nous, on est très libre par rapport à ça, puisque ce n'est pas dans ce cadre-là. Donc effectivement, l'idée de mélanger des femmes qui produisent la comédie, des films un peu plus indés, pour des supports différents, que ce soit la télévision, les plateformes maintenant, le cinéma. On voit que des festivals de cinéma, d'ailleurs, sélectionnent aussi, et des séries et des plateformes. Donc pour nous, c'était ça aussi l'intérêt, c'était de faire se rencontrer des gens.
Alors c'est intéressant parce que là vous venez de parler de plateformes, séries, le cinéma, la comédie. Alors comment ça fusionne tout cela, parce que le sujet n'est pas de faire un débat, en fait.
Ah non, pas du tout. Non, mais en fait, alors ça, c'est le moment où ça nous dépasse. Et c'est la magie de la chose, je pense. C'est qu'en fait, on fait un tour de table où chacune se présente, qui est un moment hyper important, difficile. On n'a pas forcément envie. Même nous, on se dit, est-ce qu'on le lance? Comment on fait? Parce qu'on se dit, tout le monde est là, oh non, on n'a pas envie. Et puis finalement, ça crée une synergie, un espèce de prise de risque de se mettre à nu devant tout le monde, de se lever, de prendre la parole, de dire ce qu'on est, ce qu'on veut, c'est pourquoi on est là. Qu'est-ce que c'est pour nous la sororité? Qu'est-ce que c'est que des projets qui sont à venir? Et donc chacune du coup rentre en interaction les unes avec les autres, en voyant souvent que des personnalités sur lesquelles on croirait qu'il y avait une grande confiance en soi, tout d'un coup elles se fracturent, et c'est très touchant. Et je pense que après, durant le dîner, les choses se créent, quoi. Mais ça nous dépasse complètement. Moi, je sais qu'il y a des films qui vont rentrer en production qui sont Girls Support Girls, on va être au générique. Il y a eu les petites capsules qui sont sur France 2 pendant Cannes, où on a donné des noms de réalisatrices. Et ben voilà, c'est Girls Support Girls à remercier, parce qu'on a essayé de mettre en valeur les réalisatrices qui viennent nous voir, parce que c'est la photographe Sylvie Castioni qui suit tous nos Girls Support Girls, qui fait cette capsule pour France Télévisions. Du coup, ça faisait du sens, et elle a utilisé le réseau qu'elle a eu grâce à nous en venant au dîner, et du coup elle a remercié Girls Support Girls, et c'est chouette, quoi, parce que du coup ça met en valeur des réalisatrices qui le sont, mais peut-être pas nécessairement de cette manière-là. Voilà.
Et c'est vrai que cette année, en plus, on est très très heureuse de le faire dans d'autres pays.
On s'ouvre. Voilà, international.
Ouais. Parce que jusqu'à présent, on faisait nos dîners à Paris, ce qui est logique puisque nous vivons là, et en plus l'industrie est quand même basée à Paris. On le fait dans le cadre du Festival de Cannes. On l'a fait cette année pour la première année à Cannes Série, et dans un autre festival qui s'appelle le Festival Pluriel, dont la thématique du festival correspond parfaitement à ce que l'on fait. Et là, on va en faire un à l'île Maurice, dans le cadre d'un festival de cinéma au féminin. Donc pareil, ça s'intègre dans la thématique. Et un en Guinée, dans le cadre du festival Ciné Nomade, où pareil, on va avoir la possibilité, la chance de pouvoir échanger avec des femmes, de l'industrie, mais d'une autre industrie, avec certainement des regards et des échanges qui risquent d'être passionnants.
Bravo, bravo à l'international. Et c'est déjà
parce
en
que
place.
Finalement, l'international, ce n'est pas que forcément des territoires auxquels on pense dans un premier temps. Là, on voit la rentrée, il y a le Festival du film de Venise, il y a le Festival du film de Toronto. Donc évidemment, il y a plein de pays. Mais d'aller aussi dans des pays où on n'a pas forcément une idée précise de... Voilà, ça se passe comment l'industrie là-bas, la production, la place de la femme aussi. Donc, je trouve que de trouver un équilibre entre déjà les gros festivals internationaux et d'aller aussi à la rencontre vraiment d'une autre industrie, c'est hyper excitant.
Oui, et puis étonnamment, la Guinée, on pourrait imaginer un univers patriarcal, certainement, mais le fait est que la directrice du festival est une femme et que c'est un des rares festivals où à la tête, il y a une femme.
En Afrique.
En Guinée. Voilà.
D'accord.
Mondialement, les festivals sont majoritairement des hommes. Oui. Non,
complètement.
Ouais. Donc nous, on est hyper fiers de l'accompagner. C'est très beau, hein, son projet. C'est un festival. Donc, il y a un festival de long métrage pendant 3 jours à Conakry. Et après, ça se balade dans la Guinée avec des courts métrages sélectionnés pour faire connaître le cinéma dans les villages.
Ouais, ça, c'est impressionnant.
C'est très, très beau, ouais.
Bravo. Bravo. Justement, j'allais vous demander, mais quelle est votre plus grande fierté ou quelle est votre fierté aujourd'hui ou l'accomplissement
par rapport à Girls Support Girls?
Oui.
Le plaisir réel quand des choses se passent et qu'on sait qu'il y a des projets qui naissent, je veux dire, au-delà du label et du côté professionnel ou industrie, que des choses se montent, hein, il y a quand même ce truc de plaisir qui est inouï de se dire « Ah, voilà, ce projet-là est né de cette rencontre-là ». En tout cas, voilà, je pourrais dire que c'est une des fiertés, je sais pas si c'est fierté, mais plaisir.
D'accord.
C'est de sentir que le label Girls Support Girls, ça devient une vraie marque de fabrique et que les gens sont fiers de le porter. Je crois que Sylvie et France 2 étaient contents de le mettre au générique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que tous les projets qui émergent de ça, alors on peut l'oublier aussi, hein, parce qu'on oublie vite d'où ça vient, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'on n'oublie pas et qu'on se dise que voilà, que c'est un vrai label de sororité et que les femmes ensemble, on peut faire des choses super, qu'on n'est pas nécessairement des ennemis les unes vis-à-vis des autres. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a 4 ans, quand on a créé ça avec Caro. On était juste après Weinstein, je crois, si je dis pas de bêtises, juste après Me Too. Et quand on a fait le premier dîner, c'était étonnant parce que vraiment, on a eu l'impression d'organiser un dîner de sorcières, entre guillemets. C'est-à-dire que les filles étaient hyper gênées en disant, il faut prévenir les mecs, hein, parce que c'est pas contre eux. T'étais là, mais en fait, non, on va pas les prévenir. Est-ce que eux, quand ils font des dîners de mecs, ils nous préviennent, en fait, il n'y a pas de sujet. Ça a été juste ce dîner. Il y a eu ce premier dîner. Après, il y a pu et au fur et à mesure, c'est monté justement de plus en plus vers quelque chose de très solidaire, de sororité, de bonnes ondes, de bienveillance. En fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, elles se sont rendues compte que on est là et qu'elles sont là aussi et que les unes les autres se rendent compte et que ça crée vraiment quelque chose.
Et que le sujet n'est pas les hommes.
Voilà, alors pas du tout, jamais.
Le sujet, c'est vraiment le réseau entre femmes dans cette industrie. Donc, on n'est pas là pour exclure. C'est juste qu'à un moment donné, on se réunit entre femmes, comme les hommes peuvent se réunir entre hommes, ou les clubs anglais le prouvent. Et c'est pas pour ça qu'ils étaient anti-femmes. Enfin, il y a évidemment des combats qui sont menés, qui sont à mener. Des associations le font très bien. Ouais. Et c'est très important qu'elles existent. En revanche, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas ça.
Non. Nous, c'est vraiment du réseau. Et puis, c'est pas contre les hommes non plus. D'ailleurs, on a fait une grande fête pour les 4 ans de Girls Support Girls, où il y avait les femmes et les hommes. Voilà, les hommes, ils étaient très peu nombreux, mais alors, ils étaient très contents. Non pas, je pense que, parce qu'en fait, on avait fait une première partie pour les femmes de 20h à 22h, et les hommes étaient autorisés à partir de 22h. Donc, ils se sont dit, oh, fais chier. Mais moi, j'ai réussi vachement grâce aux mecs et tout ça, donc c'est vraiment pas contre eux, mais c'est plus, je suis élevée de manière matriarcale avec ma mère, ma sœur, et je me rends compte qu'en fait, enfin, je vois avec Caro le fait qu'on se mette ensemble et qu'on fasse ça, moi toute seule, je le fais pas en fait. Donc c'est cette sororité-là, et je pense qu'on peut être hyper forte tout ensemble.
Et pareil, moi aussi, moi c'est ma mère, ma grand-mère, donc quand même il y a des femmes qui sont très inspirantes, ou en tout cas des femmes fortes, et qu'il n'y a pas de raison, et on peut être une femme forte et ne pas être en opposition avec les hommes d'ailleurs.
Voilà. Et ni avec les femmes d'ailleurs, parce que souvent on a peur, les femmes fortes, il y a quelque chose, alors peut-être sur les générations un peu plus au-dessus de nous, parce que vraiment ça a été dur pour elles, et il a fallu qu'elles se fassent leur place, et qu'elles sont très, elles ont une grosse carapace, mais en vrai, on voit quand on les invite à dîner tout ça, elles demandent qu'une seule chose, c'est à la faire tomber, quoi, et de se dire, viens, on est ensemble et c'est chouette, et voilà. Mmh. Et vraiment, la force, ça va être là, ça va être en étant solidaire entre nous, on va y arriver. Et là où ça sera le summum, c'est quand on sera solidaire tous ensemble, les hommes et les femmes, en fait, en vrai.
Et puis, ça fait du bien de faire tomber de temps en temps la carapace et les armes, je veux dire, là, indépendamment du fait d'être une femme. Mais dans le monde du travail, on est obligé d'être en représentation, d'avoir une certaine carapace. Bon, ça fait partie du fait de travailler, donc c'est Mais d'avoir ces moments-là où réellement on peut faire tomber le gilet pare-balles, on sait qu'on peut se lever de table sans se dire oh mon Dieu, on va y avoir des horreurs qui vont être dites.
Ah ouais, alors jamais.
Et là, jamais. Et je peux vous dire,
ça vient même pas à l'esprit.
Ça fait un bien fou parce que je pense qu'on a tous et toutes, pour le coup, été confrontés à ce sentiment de se dire oh là, si je me lève. Quand je reviens. et voilà, et tout le monde a besoin de ça, finalement.
Fait tomber le jugement, oui. Nos jugements.
Les préjugés, surtout.
Exactement. Dans un premier temps, et ensuite, pas de jugement.
Mmh. Ouais.
Ah, c'est super, ça. Bravo.
Oui, parce qu'on peut être en désaccord, on peut ne pas, on a tous des parcours différents, comme disait Vanessa, on peut avoir des parcours différents, des générations différentes, des milieux, des cultures, une éducation, qui fait que forcément, on va pas forcément ressentir les mêmes choses ou... Mais ce besoin, en revanche, de faire tomber les armes, d'échanger et de s'enrichir aussi par des opinions, des points de vue qui peuvent être différents, c'est extrêmement important et ça fait du bien. Et on le voit parce qu'elles nous écrivent toutes qu'elles ont à chaque fois passé une très bonne soirée ou qu'elles ont envie de revenir. Et ce sont toutes des femmes qui sont très sollicitées, qui n'ont pas besoin de se rajouter un dîner non plus dans un agenda.
D'accord. Réellement. Et donc, ces femmes sollicitées ou qui ont déjà une notoriété développée, est-ce qu'il y a des ouvertures pour elles lors de vos dîners, même si c'est pas l'objectif au départ?
Ah ben, après, je vous dis ça, c'est le moment où ça nous dépasse. Nous, on se fait des listes avec Caroline, on échange. C'est jamais les mêmes personnes. Après, on a toujours une ou deux qui étaient du dîner précédent, comme ça, ça fait un peu de lien. Mais sinon, en général, c'est 20-30 personnes et elles sont là pour la première fois. Et on s'échange des listes, on met jamais de veto. Enfin moi personnellement, ouais. À chaque fois, même si moi inconsciemment au fond de moi je me dis, en fait c'est le but du jeu, c'est de faire tomber des préjugés. Donc si j'ai des préjugés sur quelqu'un, eh ben je vais la rencontrer pour de vrai et puis je vais voir. Et puis en général mes préjugés c'est de la merde. Donc c'est super de rencontrer des gens et de laisser tomber ça parce que en fait on peut avoir beaucoup de préjugés, c'est fou.
Oui, puis ça dépend comment on rencontre les gens ou quand on les voit.
Oui, c'est ça.
Il suffit aussi de voir quelqu'un dans un état où, je sais pas, la personne n'a pas le temps, de stress, et forcément, le ressenti va pas être le même que quand la personne est complètement disponible à un échange. Donc, de faire tomber cette première barrière ou ensuite, là, je parle vraiment, même d'un point de vue purement de réseau, de travail. Quand on connaît quelqu'un, c'est pas très compliqué de pouvoir rappeler cette personne en disant, voilà, j'aimerais bien te voir, j'ai tel ou tel projet. Ça se fait ou ça se fait pas. Mais quand même, c'est dur. On n'a pas cette culture en France, je pense, de rencontrer les gens de toute façon sans avoir un projet à proposer. Aux États-Unis, c'est un peu dans le sens inverse. Vous avez accès. Ça ne veut pas dire que les choses vont se faire. Mais l'accès au rendez-vous, en se disant bon, on ne sait jamais, on ne va pas passer à côté d'un projet qui peut être intéressant. Ici, on est plus bon. Si j'ai pas de projet, je suis pas sûre de pouvoir d'être légitime, ce fameux mot, rencontrer cette personne. Maintenant, une fois que c'est fait, cette barrière-là. Elle a sauté, vous l'avez rencontrée, donc c'est facile et je dirais c'est un accélérateur.
Et puis moi, le nombre de fois où j'ai vu des financières, des productrices avoir des préjugés sur des actrices et puis finalement on dit, bien, heureusement que on l'a rencontrée à dîner, mais elle est si sympa, elle est géniale, elle est brillante, là, où je la connaissais pas, etc. Enfin vraiment, il se passe un truc où elle se kiffe, quoi. Ouais. Ça nous honore, enfin, je veux dire, parce que après, ce qu'elles reçoivent, elles nous le renvoient. Enfin, je veux dire, c'est le cercle vertueux, en fait, de donner, de.
C'est bien aussi de faire les choses, de pas avoir peur de se dire, bon, est-ce que ça va suffire? Parce que c'est vrai, quand on voit les chantiers, parfois, de combats ou de choses, on se dit, oh, finalement, ça vaut peut-être pas le coup, c'est pas suffisant. C'est vrai que quand on commence à se dire, bon, c'est pas grave, ça va pas changer complètement les choses, mais si déjà, ça permet une petite évolution, ou voilà, l'accès aux rencontres, si chacun y met un peu sa petite pierre, ça fait du bien, quoi.
Moi, je suis désolée, mais quand on voit les Césars cette année, les filles, comment elles étaient les unes vis-à-vis des autres, peut-être qu'on y est un peu pour quelque chose.
Hein. Ça, c'était formidable, toutes ces de parler des autres, de femmes qui n'avaient pas été nommées, de ne pas oublier.
Ouais.
C'est vrai qu'on s'est dit, ah, quand même, voilà. Ça va dans le bon sens.
Ouais.
Les choses vont dans le bon sens, en tout cas.
Ouais, on était dans l'air du temps.
Wow. Alors, vous êtes sur le podcast Balance ton héroïne. Moi, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, Caroline, qui est votre héroïne ou vos héroïnes? Qui sont
alors,
vos héroïnes?
Alors, je suis obligée d'en citer plusieurs, pardon. Je vais commencer par mon héroïne la plus proche, qui est ma mère et ma grand-mère. Non pas que des hommes dans ma famille ne m'ont pas inspirée, mais là, c'est ton héroïne. Mais c'est vrai que c'est nos premières références. Et voilà, je pense que je suis la femme que je suis aujourd'hui par rapport à ma mère et aux femmes de ma famille. Et après, des femmes qui m'ont inspirée, qui continuent à m'inspirer. Je pourrais dire pour la France, Gisèle Halimi, Simone Veil, qui sont des femmes extraordinaires. Et aussi la femme qui a été la deuxième femme juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, qui s'est battue pour les droits des femmes, pour les droits civiques, qui était une femme extraordinaire, qui est décédée il y a 3 ans maintenant. Angela Davis, voilà, Rosa Parks, des actrices comme Jane Fonda, Suzanne Sarandon, qui mettent évidemment leur notoriété et leur combat, qui essaient de les unir. En France, voilà, des femmes comme Emmanuelle Béart, Josiane Balasko, qui prennent aussi la parole pour des sujets qui leur tiennent à cœur. Voilà, il y a plein de femmes, je pourrais en faire, mais voilà, les principales sont celles-là.
Et
ma partenaire, Vanessa.
Ah, c'est beau.
Trop mignon. Et voilà, à toi maintenant.
Ce que j'entends, c'est que ce sont toutes des femmes engagées.
Ouais.
Forcément.
Ouais. Alors, bah, moi, je vais pas être hyper originale. Moi, c'est ma mère aussi, qu'on appelle Nana Pitbull, hein, parce qu'elle a son petit caractère et que, bah, elle m'a élevée, pour que je sois indépendante et que je fasse ce dont je rêve et qu'il y avait rien d'impossible. Donc voilà. Et ma fille aussi, que je trouve extraordinaire. Elle se bat tous les jours. Elle est hyper brillante. Elle est dans un club d'éloquence. Enfin, elle est très engagée pour plein de choses. Elle fait l'armée du salut. Enfin, donc je trouve que, voilà. Et alors, si on dépasse ça et qu'on ouvre le champ à des grandes figures, alors c'est un peu tarte à la crème, mais Frida Kahlo, pour moi, et je dis pas ça parce que j'ai des nièces mexicaines, mais quand même, Frida Kahlo, je trouve que c'est quand même un personnage qui est passé par le handicap, qui était la seule femme peinte, il y en a très peu, et qui a réussi à se faire sa place. Je pense qu'elle se retourne dans sa tombe aujourd'hui de voir qu'elle est quand même Égérie Shine, mais voilà. Gerda Taro, qu'on ne connaît pas, et qui est une photographe de guerre et qui a créé Kappa, qui pour moi est hyper inspirante parce que très libérée, et en fait derrière souvent des hommes, il y a des grandes femmes dont on n'a pas beaucoup entendu parler, et elle en fait partie. Elle est morte à 28 ans, et je pense que le photojournalisme ne serait pas ce qu'il a été, on n'aurait pas eu les images du D-Day, des camps, si il n'y avait pas eu Gerda. Et qui y a d'autres? Bah, Caro, hein, parce que franchement, elle est hyper inspirante, et c'est vrai, parce que c'est une sacrée businesswoman, et c'est une sacrée femme de tête, et souvent, je lui demande conseil. Enfin, bon, bref, pour moi, elle est très, très inspirante. Donc, voilà.
Ouais, ce super binôme. Je m'attendais pas justement à que vous vous citiez en fait en héroïne.
Oui.
Donc voilà.
On est pleine de surprises.
Pleine de surprises, mais c'est un binôme soudé et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Girls Support Girls va perdurer, va pouvoir perdurer aussi. On n'a pas parlé de vos valeurs communes, mais vous en avez parlé forcément. Mais c'est ça aussi qui fait la longévité d'un binôme. Mmh. En fait, c'est de pouvoir aussi admirer. Bah, l'autre, dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle propose et dans sa personnalité. Donc voilà, et bah, écoutez, merci en tout cas. Est-ce que vous vouliez dire encore quelque chose? On n'a pas parlé fonds, financement, investissement. Je sais pas si vous aviez envie d'en parler.
C'est vrai qu'on a cette madeleine de se dire qu'il y a des projets qui émergent de Girls Support Girls qui sont super et qu'on aimerait pouvoir y mettre de l'argent et créer un fonds. On n'a rien structuré pour l'instant de concret, parce que c'est difficile de trouver des investissements. Enfin, on n'a pas encore trouvé la manière, parce qu'on ne sait pas si ça doit être européen, si ça doit être français, si ça doit être international. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des idées, qu'ils n'hésitent pas. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien, pouvoir soutenir au-delà du contact, du réseau, pouvoir apporter aussi de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre quand même.
Bon, en tout cas, c'est dit, c'est posé, à développer, verra,
on verra plus tard, on reviendra.
exactement. Mais en tout cas, merci Vanessa, merci Caroline.
Merci à vous.
C'est très inspirant, ce que vous faites, c'est ce que vous donnez, et je sais que c'est très enrichissant pour vous. Mais en tout cas, merci de cette interview.
Non, merci à vous, c'est super.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.